Alors, lors de notre dernière réunion, avant-dernière réunion des prédicateurs, Olaf nous avait demandé à Jean-Paul et moi de parler un peu sur le couple, sur des thèmes liés à la vie de couple, hein, puisque nous intervenons régulièrement dans des séminaires sur ce sujet. Et nous en avons choisi deux, qui parlent bien sûr du couple, mais dont les thèmes peuvent s'étendre à la vie de famille, aux relations avec nos parents, avec nos enfants et à nos relations entre frères et sœurs dans l'Église. Aujourd'hui, on va parler de l'harmonie. L'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la famille, l'harmonie entre nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Est-ce que c'est l'absence de tout conflit? Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord sur tout? Non, je pense pas, ça c'est clair. Je dirais même que la différence d'état d'esprit, la différence de pensée, de conviction, est même nécessaire pour avoir l'harmonie. L'harmonie, c'est différent de l'unisson. Parfois, en voulant chercher la communion fraternelle, on cherche l'unisson. On voudrait être d'accord sur tout, mais c'est pas forcément ce que Dieu veut. Et nous recherchons parfois l'unisson par peur de la différence. La différence, elle est là. Avec Olaf, on a eu une discussion assez vigoureuse sur un passage de l'Évangile. Ça n'empêche pas l'amour fraternel qu'il y a entre nous, même si on a des divergences de point de vue, des divergences théologiques.
C'est un bon échange.
C'est un très bon échange, oui. Et ça n'empêche pas le respect, ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas l'amitié, ça n'empêche pas la relation entre nous. C'est pour ça que l'harmonie est très importante, de savoir ce que ça veut dire et comment la vivre. Alors, l'harmonie, bien sûr, au départ, c'est un terme musical, hein. Il y a plusieurs personnes entre nous qui font de la musique ou qui en ont fait. Un orchestre symphonique peut avoir jusqu'à 90 musiciens. Dans ces 90 musiciens, il y a la contrebasse, il y a le triangle. Ils sont aussi importants l'un que l'autre. Et imaginons qu'un orchestre symphonique, tous les instruments jouent le même son. Là, pendant 1 heure. Est-ce qu'on irait voir un orchestre qui jouerait le même son? Est-ce qu'on irait payer pour un orchestre qui joue le même son? Non. Ils jouent de manière différente, chacun sa partition, mais ils produisent la même œuvre parce qu'ils suivent le chef d'orchestre. Et ils produisent une belle famille, une belle musique en parfaite harmonie. Et moi, je voudrais vous proposer ce matin de regarder deux clés de l'harmonie. Deux clés, pourquoi pas, si on reste dans le domaine musical, s'honorer mutuellement. Et vivre dans la puissance de la bénédiction. Alors, s'honorer mutuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Que même veut dire le terme honorer? Je voudrais vous citer, avant d'aller plus dans la définition, un passage, c'est Philippiens 2, versets 3 et 4, hein, qui dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. » Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Alors, d'après le dictionnaire, le mot honorer signifie rendre hommage à quelqu'un, à une qualité qui le caractérise ou qui la rend éminente, célébrer, procurer de l'honneur ou de la considération. Être fier de quelqu'un. Alors, le terme honoré est un terme assez peu utilisé en France dans les relations conjugales, mais il est familier aux Britanniques et aux Américains, parce que c'est une expression qui va se retrouver lors de l'échange des vœux dans les mariages. En effet, en Angleterre, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la cérémonie religieuse devant le pasteur a valeur légale, puisqu'il n'y a pas séparation Église-État comme en France. Et donc, les époux s'engagent à s'honorer et à se chérir. ce qui va bien au-delà de seulement s'aimer. Alors, comment, à votre avis, comment peut-on honorer son conjoint? Eh bien, d'abord, je vous propose plusieurs clés. Tout d'abord, encourager son conjoint. L'encourager, ça veut dire l'aider à s'édifier, à se construire, à se solidifier. Le contraire de démonter, décourager, insulter, rabaisser. Ainsi, on va participer à libérer son conjoint et à le rendre capable d'être ce que Dieu a prévu qu'il soit. Et ça, c'est vrai pour nos enfants, c'est vrai pour nos parents, nos beaux-parents. Moi, j'ai plus de parents, mais j'ai toujours des beaux-parents. C'est vrai pour nos frères et sœurs. Et dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, Paul nous dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. » Ensuite, un autre moyen de reconnaître, d'honorer son conjoint, c'est reconnaître ses points forts. Est-ce que ça vous semble difficile de penser aux points forts de votre conjoint? Peut-être qu'une façon de préférer son conjoint, c'est de voir plus ses points forts que ses points faibles. Ça peut être une question de dire tout simplement à son mari, à sa femme, « C'est vraiment bien ce que tu as fait, tu es doué pour ça. » Ce n'est pas une flatterie, c'est de la reconnaissance. Je me rappelle, j'ai demandé à Marie l'autorisation de le dire avant, combien ça lui avait fait du bien, quand elle a été à l'entreprise de son mari, d'entendre dire du bien de Jérémie par quelqu'un d'autre. Et Jérémie, t'y arrive. Par quelqu'un d'autre. Combien ça lui a fait du bien d'entendre dire quelqu'un qui reconnaissait les points forts de son mari. Parce que parfois, quand on est dans la vie quotidienne, on se heurte à ses points faibles. Et on ne voit que ça. Et moi, j'ai commencé l'année 2017 en décidant de remercier Jean-Paul ou de le féliciter pour chaque jour pour au moins une chose. Alors, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte. Et je ne sais pas si ça lui a fait du bien, mais à moi, ça en fait énormément. Tous les jours, trouver un point positif pour remercier mon conjoint. Une troisième manière d'honorer son conjoint, c'est lui donner la liberté d'échouer. Notre conjoint, comme nos frères et sœurs dans l'Église, est un être humain, un être limité, un être pécheur, un être perfectible. Ne demandons pas la réussite parfaite, mais encourageons-le ou là, surtout dans l'échec, qu'elle ne reste pas dans l'échec. Soyons les supporters de notre équipe. Notre famille est une équipe, notre couple est une équipe. Notre Église aussi, merci. Donc soyons supporters de notre équipe, ne faisons pas bande à part. Quatrième moyen d'honorer son conjoint, c'est semer des paroles positives. Avez-vous jamais envisagé que vos commentaires ou vos paroles ne soient des graines qu'on sème dans l'esprit, dans le cœur des autres ? Et nos silences aussi sont des graines qu'on sème. On avait un ami qui racontait toujours que son père était extrêmement sévère et qu'il ne faisait aucun compliment. Il ne faisait que des reproches et il disait « Si je dis rien, c'est que c'est bien. »
Ça, c'est mon
grand-père. Ben voilà. Voilà. Et je voudrais vous citer toujours l'apôtre Paul, cette fois-ci aux Éphésiens, chapitre 2, verset 29. Et j'aime bien le lire comme s'il s'agissait de moi, comme si c'était à moi qu'il parlait, vraiment. Et je le lis comme ça. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de ma bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et procurent une grâce à ceux qui l'entendent. Sinon, je me tais. Voilà, c'est souvent ce que je me dis. Je n'y arrive pas, toujours. Mais c'est ce que je me dis. Cinquième point, pour honorer son conjoint, aider son conjoint à faire face à son passé. Peut-être que notre conjoint a quelque chose de douloureux ou quelque chose dont il ou elle a honte dans son passé, que ce passé soit récent ou ancien. Il est important que votre conjoint sache que malgré cela, vous l'aimez et que vous l'acceptez complètement. Dimanche prochain, on va parler des conflits. Et peut-être que vous avez vécu un conflit avec votre conjoint ou que votre conjoint vous a offensé. Et quand vous pensez qu'il ou elle vous a joué un mauvais tour, vous a laissé tomber, vous a fait un croche-pied, comme on dit, ou vous a envoyé une vacherie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais, moi, souvent, parfois? Moi, je vous propose de vivre ça avec la puissance de la bénédiction. La deuxième clé pour l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans les relations, c'est vivre dans la puissance de la bénédiction. Alors on va voir déjà qu'est-ce que ça veut dire. D'après le dictionnaire, une bénédiction, ça veut dire n'importe quel avantage octroyé ou désiré, principalement des faveurs, des avantages donnés par Dieu et procurant plaisir et bonheur, ou l'invocation de la faveur de Dieu sur quelqu'un, ou encore un témoignage de bienveillance. On a un exemple dans Genèse au chapitre 39, verset 5. Alors c'est l'histoire de Joseph chez Potiphar. À partir du moment où Potiphar a mis Joseph intendant de tous ses biens, dès qu'il l'eut nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et là, l'Égyptien s'est mis à être de plus en plus riche. La bénédiction fait partie de ces termes magnifiques. Moi, je trouve c'est merveilleux, la bénédiction. Elle se donne, elle se reçoit, elle se demande, elle s'hérite, elle est gratuite, elle est sans limite. Et la bénédiction, elle est présente tout au long de la Bible. Dès la Genèse, qu'est-ce qui se passe au chapitre 1 ? Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa, et Dieu les bénit. C'est la bénédiction qu'on reçoit. Elle est présente tout au long de l'histoire du peuple hébreu. Elle est aussi présente dans les psaumes. Dieu est béni. On demande la bénédiction de Dieu. Elle est présente dès l'annonce. Alors, dans les évangiles, elle est présente du début jusqu'à la fin. Elle est présente dès l'annonce de la naissance de Jésus, puisque Marie, quand Marie rend visite à Élisabeth, c'est dans Luc chapitre 1 verset 42, Élisabeth dit « Béni sois-tu entre toutes les femmes et béni soit le fruit de ton ventre ». Et à la fin de l'évangile de Luc, au moment de l'ascension, enfin de la résurrection et de l'ascension, il est encore question de bénédiction, je vais vous lire le passage en entier. C'est Luc 24, 50 à 54. Donc, Jésus les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, les apôtres, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Alors, le verbe « bénir », il vient du latin « benedicere », j'espère, je ne sais pas si je prononce bien, puisque c'est une langue morte, on a un peu de mal à savoir comment ça se prononçait. Et ça signifie étymologiquement « dire du bien ». La bénédiction, pour moi, elle ressemble à la corne d'abondance. Vous voyez ce dont je veux parler, la corne d'abondance qu'on voit. Alors, c'est une corne comme un énorme coquillage duquel sort des fruits, des fleurs, de l'argent, parfois, ça dépend. Et la corne d'abondance, c'est une image qu'on voit dès l'Antiquité. C'était présent dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité celtique, et elle est toujours source, comment dire, symbole d'une source inépuisable de bienfaits. Une fois qu'on a vu cette définition de la bénédiction, je voudrais rappeler que la bénédiction, c'est le baume de toute relation. On va parler plusieurs fois, je vais aborder avec vous plusieurs fois le même passage, c'est 1 Pierre 3, 9 à 12. Début de 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Dans la relation, dans nos relations humaines, pas simplement nos relations de couple, on a deux choix, en gros, comme dit Pierre. On a la relation insulte pour insulte, ou on a la relation bénédiction pour insulte. Alors, on va voir déjà la relation insulte pour insulte. Alors, j'entends par insulte, pas forcément un mot ou une injure, mais tout fait qui a pour but de nous blesser. Que ça soit un mot, une attitude, un silence, un regard. Face à une insulte, la réaction qui nous semble la plus naturelle quand nous subissons un tort, c'est de répondre de la même manière, insulte pour insulte. C'est tellement lié à notre manière d'être. Je voudrais raconter deux petites anecdotes. On connaît tous Winston Churchill, qui était donc Premier ministre en Grande-Bretagne pendant la guerre. Et parmi les parlementaires, parce qu'à cette époque-là, les femmes avaient déjà le droit de vote et d'être élues, Lady Astor était une femme politique, une parlementaire. Et tous les deux se détestaient. Et je vous cite deux citations qu'on raconte sur eux, mais il y en a certainement eu d'autres. Par exemple, Lady Astor, qui dit à Churchill, « Si j'étais votre femme, je mettrais de l'arsenic dans votre thé. » Et Churchill répond, « Mais madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » Insulte pour insulte. Une autre fois, un autre soir, Lady Astor voit que Churchill est complètement ivre. Et elle lui dit, « Monsieur le Premier ministre, vous êtes ivre. » Churchill répond, « Et vous, madame, vous êtes laide. Moi, demain, je ne serai plus ivre. » Voilà, insulte pour insulte. Et toc. Ou alors, on a le choix de la relation bénédiction pour insulte. Je relis le verset 9 de 1 Pierre 3. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Alors, on entend par là, comme une sorte de bienveillance continue et active envers notre conjoint, nos parents, nos enfants, notre famille, nos frères et sœurs. Dans une relation bénédiction pour insulte, on a les yeux fixés sur Dieu et on fait confiance à sa parole. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore, Pierre, en parlant de Jésus ? Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors, comment donner une bénédiction concrètement, à la place d'une insulte. Je vais être très concrète. Alors, ce fameux passage de 1 Pierre 3, 9 à 12, pour moi, c'est une sorte de manuel de l'utilisateur de la bénédiction. Et je vais être très terre à terre. Je relis ce passage. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » Donc le mode d'emploi, le manuel de l'utilisateur déjà, il nous donne trois choses à faire. Préserver sa langue du mal. Tout simplement, faire gaffe à ce qu'on dit. Réfléchir avant de parler. On a vite fait de dire tout un tas de petites paroles coupantes, de petites réflexions un peu acerbes, de commentaires qui ne sont pas bien méchants, mais un petit peu quand même, et qui peuvent s'accumuler. J'ai entendu une fois une citation très intéressante. Celui qui dit que les petites choses ne le dérangent pas n'a jamais dormi avec un moustique dans sa chambre. Les petites choses, mes frères et sœurs, les petites piques, alors ça, c'est mortel. S'éloigner du mal et faire le bien, ça, c'est la deuxième chose à faire. C'est très concret. Non seulement on s'éloigne du mal, c'est-à-dire on s'éloigne de comportements malsains, on s'éloigne d'attitudes malsaines, on s'éloigne de gens malsains. Moi, je me rappelle une fois, il y a très longtemps, j'avais une amie à Lyon qui était particulièrement décourageante, dépressive, malsaine. Et un jour, Jean-Paul m'avait dit « Je ne veux plus que tu ailles la voir. » Parce qu'elle me faisait du mal. Elle me faisait du mal. On s'éloigne du mal et on fait le bien. Si nous pouvions semer des paroles positives autour de nous, ce sont des paroles positives et le fruit qu'elles vont porter le sera aussi. Et enfin, troisième chose, rechercher la paix et la poursuivre. Rechercher la paix, c'est-à-dire que c'est une attitude continuée. On ne l'a pas trouvée une fois pour toutes et on s'arrête là. On poursuit la paix comme on poursuit des études. C'est-à-dire qu'on continue à travailler, on continue à avancer. Ça ne vient pas tout seul. La paix n'est jamais acquise définitivement. Ensuite, pour continuer dans ce manuel de l'utilisateur, je vous proposerai, toujours par rapport à ce passage, les trois bienfaits de la puissance de la bénédiction. Je relis le passage, on va finir par le connaître par cœur. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Les trois bienfaits de la puissance de la bénédiction pour nous qui donnons cette bénédiction. On héritera de la bénédiction. Moi, c'est un terme très, très fort pour moi, héritage. Ça veut dire que, en ce moment, on vit peut-être des choses très difficiles. Nous avons, nous, Jean-Paul et moi, vécu des choses très difficiles. Donc, cette bénédiction, on ne la voit pas. On ne la reçoit pas maintenant. Mais on sait qu'elle va venir. On sait qu'on va l'hériter. Hériter de cette bénédiction. Vous verrez des jours heureux. Peut-être qu'on les voit maintenant. Et peut-être qu'on ne les voit pas. Et c'est une promesse. Nous verrons des jours heureux. Et puis, troisième bienfait, Dieu veillera sur nous et entendra nos prières. Si on veut que nos prières soient entendues, mettons en pratique cette puissance de la bénédiction. Alors moi, j'ai envie de vous proposer aussi une chose, c'est est-ce qu'il faut attendre d'être insulté pour chercher à bénir son conjoint ? Aujourd'hui, est-ce que vous allez attendre que votre mari ou votre femme soit désagréable pour lui donner une bénédiction ?
Fais un effort,
insulte-moi que je puisse te bénir, c'est ça un petit peu. Non, effectivement, je pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre une expérience négative pour chercher à faire le bien et bénir. Mais ce serait vraiment chouette, chaque matin, de se poser la question... Qu'est-ce que je peux faire pour bénir mon conjoint aujourd'hui ? Mon conjoint, mes enfants, ma famille. Et peut-être que vous manquez d'idées. Alors, on dit toujours, enfin, on dit souvent, on appelle ça la règle d'or. On parle de règle d'or en citant les paroles de Jésus. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites pour eux ce que vous voudriez qu'on fasse. C'est la règle d'or. Et moi, je vous propose la règle de platine, un petit peu plus. Faites pour votre conjoint ce qu'il voudrait qu'on fasse pour lui. Et pour ça, j'ai une piste pour vous. On en a déjà parlé un petit peu dans notre week-end couple qu'on avait fait ici. C'est les 5 langages de l'amour. Je pense qu'on en a déjà parlé. Alors, ce livre, il est édité maintenant en format de poche. Il vaut 6,90 €. Donc, je pense que vraiment chacun, on peut faire l'effort de l'acheter. Il a été écrit par Gary Chapman, c'est un Américain. Et il développe l'idée que nous avons chacun un ou plusieurs langages d'amour, c'est-à-dire une ou plusieurs manières de manifester notre amour pour les autres. Et on aimerait bien que les autres manifestent leur amour par ces langages-là. Il peut y avoir des divergences de point de vue entre des divergences de sentiments, de sensations, d'impressions dans un couple, parce que chacun n'utilise pas le langage d'amour de l'autre. Alors, Gary Chapman a recensé 5 langages, 5 manières d'exprimer et de recevoir l'amour. C'est les paroles valorisantes, c'est-à-dire les compliments, les moments de qualité, c'est-à-dire prendre du temps pour passer un bon moment avec son conjoint, son enfant, etc. Les cadeaux, qui peuvent être petits ou grands, les services rendus et le toucher physique. Le toucher physique ne veut pas forcément dire avoir des relations sexuelles, mais le toucher physique, être pris dans les bras, être touché, être embrassé. Jeudi soir, j'ai demandé aussi l'autorisation à Olaf avant. Jeudi soir, c'était notre groupe de maison et Olaf racontait comment il aime dire à sa femme combien il l'aime et pourquoi. C'est un langage d'amour, de rechercher comment exprimer cet amour par des paroles, des compliments, dire à l'autre combien il nous fait du bien et pourquoi. Pour ma part, mes langages d'amour préférés, j'en ai deux, c'est le toucher physique et les paroles valorisantes. Pour Jean-Paul, c'est d'abord les services rendus. Et un problème arrive souvent, parce que nous avons la tendance à exprimer notre amour avec notre propre langage. Alors, si Jean-Paul me rend des services sans me dire pourquoi il m'aime, je peux me sentir frustrée, parce que des services, il en rend à plein de gens. Et de mon côté, si je le prends dans mes bras, mais que je fais rien pour lui, il peut le prendre mal. Alors c'est pourquoi je fais attention et que notamment je lui mitonne de bons petits plats le soir quand j'ai le temps. Ça lui fait plaisir. Pour terminer ce temps, je voudrais toujours citer Pierre. Citer l'apôtre Pierre quand il écrit. Et là c'est toujours au chapitre 3, mais c'est au verset 8. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensible aux autres, plein d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance et d'humilité. N'est-ce pas, c'est un programme pour notre vie fraternelle, notre vie d'église pour toute l'année 2017. Soyez tous en parfait accord, sensible aux autres, plein d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance et d'humilité. Cette expression, soyez tous en parfait accord, est-ce que ça vous fait pas penser à l'harmonie? Moi, oui. On pourrait penser que l'apôtre Pierre va juste nous dire, si vous voulez vivre en parfaite harmonie les uns les autres, je vous donne une clé, c'est la bénédiction. Et moi, je vais vous laisser pour la semaine avec cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour bénir mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, aujourd'hui? Voilà, je vous remercie.